I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue pour la 9e semaine du fauteuil. On est à la mi-saison. Déjà, c'est passé vite. Merci beaucoup de nous suivre encore une fois sur Touchdown Actu. Vous avez l'habitude, je commence l'émission par une petite minute d'inattention au moment où je mets hop le post sur Twitter et le post sur Facebook pour ramener le plus de gens possible. C'est en train d'envoyer sur Facebook parce qu'on sait tous que Facebook c'est naze et ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, c'est parti. Facebook, Twitter, c'est fait. Je suis Alain Mattei, je suis content d'être avec vous encore une fois pour le fauteuil. Salut à Flo07, à Sébastien Polomeni et à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur ce fauteuil de nouveau à 18h puisque les Américains sont passés à l'heure d'hiver la nuit dernière, ce qui veut dire que nous sommes de retour avec des coups d'envoi à 19h, à 22h, à 2h du matin. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison, la deuxième partie de la saison maintenant. Encore une fois, vous avez l'habitude. Bonsoir donc à tous. Je vous donne le programme de la semaine. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. On va commencer par un petit point sur ce qui s'est passé le jeudi, un petit point sur l'actu aussi, parce qu'il s'est passé des choses dans la nuit de samedi à dimanche, avec notamment deux licenciements de marque, on va dire. On va prendre ensuite vos questions hein, tout du long de cette émission, bien sûr. Et on enchaînera avec le thème de la semaine qui porte sur les 10 meilleurs drafts. Alors, les drafts des 10 dernières années qu'on va essayer de classer. Voilà, on va essayer de classer les drafts de ces 10 dernières années dans l'ordre. Il pourrait y avoir pas mal de surprises. Mais en tout cas, on devrait s'en sortir sur un truc plutôt sympa. Et puis, on terminera avec un petit rappel de la Battle Royale qui est en cours sur le site et l'opposition de la semaine. Et puis les affiches de la semaine, évidemment. Il y a du Patriots Packers, il y a du Rams Saints. Il y a des choses exceptionnelles. On va parler un petit peu de tout ça, évidemment. Les pronostics, les meilleures cotes Unibet, un petit morceau de fromage. Et puis, on sera bon pour les matchs. Voilà pour le gros programme de cette semaine. Encore une fois, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Je vous laisse un petit peu de temps aussi pour nous rejoindre. Mais on va commencer tout de suite avec la victoire des 49ers, 34-3 face aux Raiders. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois que c'était toujours 1h du matin du coup, avec la surprise évidemment Nick Mullens, 16/22, 262 yards et 3 touchdowns, aucune interception pour lui. Alors forcément, c'était la belle histoire, c'est un match évidemment qu'on n'avait pas vu venir comme quelque chose de, on va dire, d'entraînant ou d'intéressant, on va pas se mentir, on n'était pas hyper enthousiasmé jeudi soir, on n'était pas hyper enthousiasmé à l'idée de voir ce match et d'écrire le résumé. Et puis finalement, il y a eu un match intéressant pour les 49ers, pas pour les Raiders. Alors on va prendre les choses en deux temps, on va commencer évidemment par l'ami Kyle Mullens. Nick Mullens, pardon, je m'embrouille déjà. Donc Nick Mullens, évidemment, c'est un grand premier match, c'est exceptionnel. Alors la belle histoire, c'est qu'il vient de la même fac que Brett Favre l'a appelé après le match, etc. Il fait un super match, ça on peut pas lui retirer. Maintenant, ça va poser des questions. Il est rookie, hein. C'est sa première saison, Nick Mullens, si vous n'avez pas suivi. Il n'a pas été drafté, du coup, si je ne dis pas de bêtises non plus. Du coup, j'ai un doute, je ne veux pas dire de bêtises sur ses choix. Oui, il est non drafté en 2017, pardon, il n'est pas rookie. Mais donc voilà, il devait être dans le practice squad des 49ers, et donc c'est un peu la surprise. Après, on a vu un joueur qui a été efficace, qui a fait ce qu'il avait à faire. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pas un énorme gabarit, hein, pour ceux qui le découvraient, 1m85, 97 kg, donc costaud, mais pas un très très grand par la taille quarterback. Mais voilà, il a fait son match. Après, alors il y a Thomas PTR qui dit qu'il est sa fac, donc c'est Southern Mississippi. Brett Favre était du Mississippi aussi, en l'occurrence la même fac. Donc on a un super phénomène. Après, moi ce que je retiens vraiment de ce match, c'est que oui, Nick Mullens fait un match incroyable. Il soigne les stats, il mène son équipe à la victoire, très bien. Je lui souhaite a priori de continuer, parce que même si CJ Bettard revient, là, bon, ça coûte rien de le tester, j'ai envie de dire. CJ Bettard est drafté l'an dernier aussi, hein, donc c'est deux jeunes quarterbacks qui peuvent évaluer un peu tout ce qu'ils ont. Mais donc ce que je retiens surtout, c'est que Kyle Shanahan fait du super boulot. C'est un très bon coach, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Il a mis Jimmy Garoppolo dans des bonnes dispositions l'an dernier. Ils mettent toujours ses quarterbacks dans des bonnes dispositions. C'est lui l'artisan de l'attaque des Falcons l'année où ils vont au Super Bowl, où ils font presque tomber les Patriots. Donc c'est un gros boulot de Kyle Shanahan. Sur le premier touchdown, Pierre Garçon, il est grand ouvert, voilà, il a des passes ouvertes, et donc c'est un très bon plan de jeu, et je pense qu'il faut saluer le coaching autant que le quarterback là-dessus. Et il a aussi été aidé par le jeu au sol, Nick Mullens, il faut pas oublier ça. Il y a Mostert qui est à 86 yards dans 7 courses, Matt Breda est à 44 yards dans 12 courses, Alfred Morris a gagné 13 yards après, ils ont couru 32 fois quand même. Il y a 4 courses pour Nick Mullens qui sont comptées dans le lot officiellement par les stats. Donc ils ont couru 28 fois, on peut dire, pour 22 passes. Donc il y a aussi un gros travail de la ligne, il y a aussi un gros travail du jeu au sol. Voilà. Donc super match, incroyable de Nick Mullens. C'est la sensation, c'est vraiment tout se fait plaisir là-dessus. Vendredi, c'était la belle histoire, etc. Après, encore une fois, il faut raison garder. C'est pas le nouveau Brett Favre, c'est pas... Zen, et en face, l'autre chose, évidemment, c'est qu'il y a des Raiders à l'agonie. Les Raiders sont à 242 yards sur ce match. Derek Carr est seul ou presque, la ligne n'existe plus, il prend 7 sacs, la défense n'existe plus non plus. Donc, je sais pas, parce que 242 yards contre la défense des 49ers, avec tout le respect que j'avais pour la défense des 49ers, 242 yards dans la NFL actuelle, c'est ridicule, c'est indigent. Il y a Woodatman qui dit c'est quoi cette casquette, tout ça pour Greg. C'est la casquette de Greg. Il faut dire que c'est un décor collaboratif et que chacun y a apporté sa petite patte. Donc c'est la casquette des Falcons de Greg, en effet. Et je tiens à préciser, c'est pas choisi au hasard les maillots. Packers, ça joue ce soir. Rams, c'est dans un choc ce soir, donc les deux. Et les Raiders à côté, c'était justement pour faire le deuil de cette équipe. Donc voilà. Je le disais, donc les Raiders sont à l'agonie. Je ne sais pas ce que fait John Gruden. Alors moi, je veux bien qu'on me dise il reconstruit, il tanque, etc. Il avait un quarterback qui était considéré comme un franchise quarterback il y a 2 ans. Et il avait un franchise player en défense. Donc à partir de là, le but, c'était d'habiller autour de ça et d'avoir une équipe compétitive. Donc je ne comprends pas pourquoi tout est détruit. Tout est détruit, alors ok, alors qu'on me dise il veut mettre ses hommes en place, etc. Mais quand ça devient jusqu'à l'excès et jusqu'à ce que ça devienne grotesque, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Alors il y a Sergio qui dit est-ce que les Raiders se sabotent pour mieux préparer l'avenir avec un premier choix de draft? Mais un premier choix de draft, ça assure rien, ça assure pas de préparer l'avenir, ça assure pas de reconstruire, demander aux Browns. Donc, ce qui assure l'avenir, c'est d'avoir un franchise quarterback. Ils sont censés l'avoir, ou à minima un quarterback compétent, et ils avaient un franchise player en défense qui était Khalil Mack. Ils l'ont refilé. Bruce Irvin a été coupé la nuit dernière, il n'était pas content, ça se passait pas bien, etc. Bon, très bien. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est la manière dont parle John Gruden en conférence de presse, oui, mais de toute façon, je sais que tout le monde veut venir aux Raiders, vous rendez pas compte, etc. Et je pense que le vrai gros problème de tout ça, c'est que John Gruden vit encore en 1999, et que depuis, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés, les joueurs parlent plus, les joueurs font plus de bêtises. Parce que quand on me dit Bruce Irvin, on lui en veut parce que il a dit, après le match perdu à Londres, qu'il préférait rentrer chez lui voir sa femme et lui faire des bébés. Enfin, ça va, quoi. Il a dit une phrase, il a rigolé. Donc, ça va. Si John Gruden attend que tous ses joueurs aient le doigt sur la couture, crie « Oui, chef » à chaque fois qu'il s'exprime, etc., Je pense qu'il va être déçu. Je pense que ça va mal se passer. Donc voilà, il y a un problème à ce niveau-là. C'est clairement un fiasco pour l'instant. Qu'on me le tourne comme on veut, qu'on me dise oui, mais il a pris un plan sur 10 ans, etc. Non, pour moi, c'est un fiasco. Ils sont à 1-7 et ils avaient commencé avec une équipe où il y avait des pièces. Et il y a des mecs qui font beaucoup plus avec beaucoup moins que ce qui est. Beaucoup moins, non, parce qu'il n'y a plus beaucoup moins maintenant qu'il a tout enlevé. Mais il y a des mecs qui faisaient plus avec moins. Donc, je vois pas comment le début de contrat de John Gruden peut être qualifié comme autre chose qu'un fiasco. Parce que la gestion de l'effectif, évidemment qu'il a la main dessus, puisqu'il n'a pas signé pour 10 ans et quasiment 100 millions pour pas avoir la main dessus. Reggie McKenzie est là dans un poste fantôme. Donc voilà, et Laura dit on parle de Gruden, mais ce serait pas le propriétaire derrière tout ça. Bien sûr, le propriétaire il a une responsabilité, c'est lui qui a signé Gruden alors qu'ils avaient une équipe qui avançait quasiment correctement. Même s'ils avaient été moins bons l'an dernier, même si ça avait régressé, mais quand même. Tars Velder qui dit à mon avis c'est réduire les frais du déménagement à Las Vegas en salaire, c'est comme les Marlins de Miami qui ont fait pareil l'année dernière. Alors oui et non, parce qu'il y a un plancher en NFL, donc ils peuvent pas dire on donne beaucoup moins. Il y a un plancher salarial et ils doivent compenser s'ils n'arrivent pas au plancher, donc je pense vraiment pas que ce soit ça. Donc non, c'est vraiment de la mauvaise gestion, c'est vraiment de l'ego, c'est vraiment, il y a plein de trucs qui jouent là-dedans. Mais encore une fois, quand on voit la manière dont Gruden est déjà coupé en conférence de presse de la réalité en disant « Oui, mais les mecs veulent encore venir jouer, on construit un champion, etc. » Moi, tant qu'il ne me dit pas « Là, on est en ruine, c'est vraiment le bordel et c'est vraiment problématique. » Voilà, c'est vraiment compliqué. Alors, oui, il y a Laura qui dit « Un journaliste américain fait le parallèle avec les Knicks et l'arrivée de Phil Jackson. » Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, je pense que Phil Jackson était dépassé dans sa gestion au moment où il prend les Knicks et pour ceux qui suivent la NBA. Je pense que voilà. Tars Velder, question, pourquoi Gruden n'a pas eu de poste pendant autant d'années? Peut-être parce qu'il a un ego qui était compliqué à gérer, parce qu'il n'a jamais voulu les bons, parce qu'il a su faire monter les enchères, etc. C'est le même problème, on parlait de NBA, que Jeff Van Gundy qui est à la télé. Quand t'es à la télé, t'as toujours l'air plus intelligent que tout le monde. Et ça permet de refaire l'histoire. Alors que John Gruden n'avait pas un bon bilan, je crois qu'il est à peine équilibré, voire négatif, après le Super Bowl qu'il gagne, sur X années qu'il fait avec les Buccaneers. Donc voilà, faut pas... C'est le problème. Donc voilà, après, encore une fois... Je lui souhaite que ça remonte. C'est une franchise qui est intéressante quand ils sont là, les Raiders. Il faut que les Raiders soient hauts. Ça fait partie des équipes qui donnent de la vie à cette ligue. Mais là, pour l'instant, non. Donc voilà. Il y a Damien qui dit pour Porzingis, c'est lui, il ne faut pas l'oublier. Alors là, on parle de Phil Jackson. On va pas 7 ans de basket, mais un bon choix n'efface pas tous les mauvais choix. Ça marche avec tous les dirigeants. Rendez-nous Jim Harbaugh, dit Guillaume. Ça, c'est vrai, Jim Harbaugh, Raiders. Allez, moi, je signe. Je suis tout de suite. Ça ce serait pas mal. L'interview de Hugh Jackson était lunaire, dit Laura, aucune remise en question, voilà. Mais je pense que dans l'ensemble, et c'est pour ça qu'on publie peu d'articles sur les conférences de presse d'après match en général, ou alors on les met dans le petit déj quand c'est des morceaux, mais il faut donner très peu de crédit à ce que disent les coachs et les joueurs en conférence de presse, parce qu'en général c'est très formaté, maintenant il n'y a plus rien qui dépasse, voilà, on est là-dessus. Mais alors, quand on voit le niveau de déconnexion qu'atteignent des fois des Chuck Pagano l'an dernier, des Hugh Jackson maintenant et des John Gruden, actuellement ça commence, là faut commencer à s'inquiéter. Quand les mecs commencent à sortir du discours et à plus sonner comme rien du tout, c'est voilà. T'es pas forcément plus beau à la télé, regarde Jeff Fisher, dit Aria Codes. Ouais, Jeff Fisher, c'est vrai que là il fait très fort. Question, pourquoi si peu de grands coachs sont-ils head coach en NFL par rapport aux autres sports US? Mais c'est compliqué parce que les grands joueurs, mais dans tous les sports, je ne sais pas s'il y a des grands joueurs qui sont coachs dans les autres sports. Citez-moi, quel grand joueur est coach en NBA par exemple? Kobe Bryant, il n'est pas coach. Je veux dire, c'est Luke Walton le coach des Lakers, c'est pas le Shaquille O'Neal ou Kobe Bryant ou voilà. Je suis pas sûr que les grands joueurs deviennent coach. Et oui, alors il y a Zidane, c'est vrai, il y a Zidane qui est Sid Damien, en effet. Steve Kerr, c'était pas un grand coach, c'était un franchise, c'était un role player. Donc, ouais, Jason Kidd, mais Jason Kidd, ça se passe pas très bien. Après, enfin, ça s'est pas toujours passé très bien. Ouais, Steve Kerr était un grand joueur, c'est une question de là d'appréciation. C'était un role player quand même. Bon, bah, c'était pas, c'était voilà. Mais Il y a quelques. Ça arrive, mais je veux dire, il y en a eu quelques-uns dans le foot US. J'ai pas d'exemple là qui me vient en tête, évidemment, mais il doit bien y en avoir. Après, encore une fois, les grands joueurs sont des perfectionnistes et je pense qu'il y a des joueurs qui deviennent fous quand ils voient que des joueurs n'arrivent pas à faire ce qu'eux font facilement. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas de règle, je pense. C'est vraiment des exceptions. Mais des mecs comme Peyton Manning, je pense, sont beaucoup trop perfectionnistes, se demandaient beaucoup trop à eux-mêmes pour pouvoir survivre moralement à ce qu'ils verraient dans un vestiaire et autour des autres, je pense. Alors je vois qu'on me propose, oui, Johnny Bleu, Platini, Maradona, non, désolé, voilà. Donc c'est pas facile, c'est pas facile. Et je pense que c'est vraiment en NBA, il n'y a que Rivers et Kerr qui sont d'anciens joueurs, voilà. Donc voilà. Et comme le dit Woodatman 64, il y a un monde entre jeu et coaching. Ça, je pense que ce soit pas vraiment vraiment compliqué. Ouais. Il y a Larry Bird qui a été coach, dit Antistar BZH, ouais. Pat Riley, c'était un grand grand joueur quand même, il gagnait, mais il y a Cruyff, il y a eu Cruyff dans le foot, c'est vrai. Tyronn Lue, mais Tyronn Lue, c'était pas un grand joueur, hein. Ni un grand coach en effet. Je vois la blague d'Antoine. Il était aussi bon l'un que l'autre. Vous êtes dur, c'était le Iverson Stopper, l'espace d'une série de playoffs. Ça a été son moment de gloire. Avery Johnson, ouais, dit William. Bon, on va pas. Patrick Roy en NHL. Ah, il est coach maintenant. Je jouais sur la console à NHL, je sais plus quelle année. Il était pas. Alors, j'y connais rien en NHL maintenant. Il n'était pas gardien de but du Colorado Avalanche. Voilà, dites-moi. Hein, si, il y a Ditka, Singletary, c'est vrai. NHL 98, ouais, c'est vrai. Peyton Manning coach chez les Browns, Christopher, c'était pas vraiment une rumeur, c'était plutôt GM. C'était plutôt GM ou dirigeant. On attend ça pour lui plutôt. Donc on est passé un peu là-dessus, on a parlé un peu de la Coupe de Bruce Irvine, donc je vous disais, c'était un peu la galère. L'actu, juste un petit mot, donc Sam Bradford est coupé. Gros respect à Sam Bradford qui a pris 13 millions et demi de dollars pour 3 matchs avec les Cardinals quand même. Il faut une petite mention. Il faut une petite mention à Sam Bradford aujourd'hui. Je veux dire, 13 millions de dollars pour 3 matchs. Parce qu'on rappelle qu'il a pris un bonus à la signature de 10 millions. Et derrière, il y avait des primes par match de 300 000 dollars. Et je sais plus quel autre truc d'un million ou quel salaire de base il y avait. Enfin bref. Respect. Respect à Sam Bradford. Je tiens à. Voilà, je m'incline, je m'incline, c'est assez incroyable. Si vous avez une négociation un jour, une augmentation, quelque chose à faire, appelez Sam Bradford ou son agent, un minimum. Mais franchement, il faut saluer ça. Beaucoup de monde demande là dans les commentaires, alors, où vont aller Bradford et Irvine, grosso modo. J'en sais rien parce que je ne suis pas leur agent, j'aimerais bien vous dire que j'ai des infos inside de fou, etc. Donc là, on est vraiment, vraiment dans le pronostic. Bradford, il va avoir un boulot, ça c'est clair. Enfin, les deux vont avoir un boulot. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je me mets le classement. Les Bills auraient besoin d'un quarterback. Donc Bradford, mais pourrait essayer d'aller piquer quelques billets là-bas. N'y a pas tant d'ouverture que ça. Il n'y a pas tant d'ouverture que ça. À moins qu'il aille trouver une place de remplaçant, parce que c'est vrai que les Eagles l'an dernier ont montré qu'avoir un mec comme Nick Foles sur le banc, bah, ça les a finalement amenés aussi quand leur franchise player s'est blessé. Donc. Pas exclure un rôle de remplaçant surprise quelque part. Je balance ça totalement au hasard, mais par exemple, les Patriots n'ont toujours que Brian Hoyer derrière Tom Brady. Il n'y a pas grand monde. S'il y a Geno Smith, je crois, aux Chargers, j'allais dire derrière Philip Rivers, pourquoi pas. Les Giants n'ont pas d'intérêt à signer Bradford parce que c'est la fin de la saison et ils vont pas mettre Eli Manning sur le banc pour lui. Je pense pas que les. Non, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je pense que pour l'instant, il est plus sur un rôle de doublure. Nick Mullens a montré qu'ils n'avaient pas besoin de Bradford. Cardinals, Bengals, Colts, Jaguars, Saints, je regarde un peu les. À moins que les Jaguars tentent un truc, mais je les vois pas. Ça me. Non, non, ça me. Ça me. C'est pas facile. C'est pas facile. On m'informe que Bradford va aller bosser chez Orange, il va vendre à Alain Lafibre. Alors non, ne dites pas ça. Vous êtes en train de regarder une diffusion Big Up à Orange qui est venu installer la fibre cette semaine. Donc là, non seulement vous regardez une diffusion en fibre, mais en plus, j'ai trouvé un moyen, et merci notamment à Sébastien de l'équipe qui m'a branché là-dessus, et à d'autres qui avaient fait les commentaires, mais mon téléphone qui filme est branché en Ethernet maintenant. Donc normalement, on est pas mal. Donc Big Up à Orange. Pas un Big Up à SFR qui me réclame 400 euros de frais de résiliation par contre. Hein, je vous retiens. Mais en tout cas, ouais, on est normalement, on est un peu plus assuré. Donc revenons à nos moutons, revenons à nos moutons et revenons à qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus où j'en étais, à Bradford, ouais, à Bradford. Donc Bradford, il n'y a pas des tonnes de solutions a priori. Et Bruce Irvine, bah Bruce Irvine, ça peut être. Il y a plein d'équipes qui ont besoin de pass rusher et on n'a jamais assez de pass rusher. Quand on voit l'agressivité. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, on parlait des Jaguars et des quarterbacks. Je mettrai l'info sur le site bientôt, ce soir ou demain matin. Mais en fait, apparemment, ils auraient refusé un échange que Dante Fowler, donc, qui est parti aux Rams, ils auraient refusé de l'échanger contre Teddy Bridgewater en direct. C'était les Jets apparemment qui leur avaient proposé plus tôt dans l'année, je crois. Donc ouais, c'était plus tôt a priori, j'espère que je dis pas de bêtises. Deuxième de Stafford aux Lions pour Bradford, ouais, ou aux Raiders, non, aux Raiders quand même. Il est meilleur que Derek Carr est meilleur que Sam Bradford quand même. Soyez sympa avec lui. Irvine aux Packers, ce serait un bon fit. Irvine est meilleur en 3-4 ou en 4-3. Bah, a priori, il est meilleur en 3-4. C'est ce qui en ressort. Mais encore une fois, il y a pas mal de. Je pense que pour un pass rusher, on peut exclure personne parce que les équipes ont montré qu'elles blindent le pass rush maintenant. Les Eagles l'ont montré l'an dernier, les Rams le montrent en ce moment en faisant venir Dante Fowler à la trade deadline par exemple. Donc je pense vraiment qu'il faut rien exclure pour Bruce Irvine. Il va vraiment venir tranquillement. Je pense qu'il va prendre le week-end pour réfléchir. Son agent va appeler tout le monde. Et puis voilà. Après, il passe sur le waiver, donc faut pas exclure qu'il soit réclamé sur le waiver. Ça, ce serait vraiment pas à exclure. Betsalel, je ne comprends pas pourquoi vous adulez Stafford à TDA. Alors aduler, je pense que c'est un bien grand mot quand même. Mais on pense que c'est un quarterback solide, oui. Je me fais l'avocat de. Je sais qu'on a eu beaucoup le débat avec Grégory Richard, je lui soutenais que Wilson était le meilleur quarterback de moins de 30 ans, il préférait Stafford. Bon, c'est une question de goût, moi je préfère Wilson et je pense que là en ce moment ça se creuse en effet un peu, mais Stafford est un bon quarterback, c'est un quarterback solide. Après, il n'a jamais eu la structure, le coaching staff ou le jeu au sol autour pour vraiment le sublimer, on va dire. Géant bleu, très bonne question, définition du waiver. En fait, quand un joueur est coupé, alors pas tous les joueurs, c'est un peu, il y a des exceptions, il faudra qu'on les mette sur le site, mais quand un joueur est coupé, il passe 24 heures sur ce qu'on appelle le waiver. Et donc en fait, pendant ce temps, ces 24 heures, toutes les équipes peuvent le réclamer. Et dans ce cas-là, ils reprennent tout son contrat, il ne devient pas libre, ils reprennent le contrat actuel qu'il avait. Et si plusieurs équipes le réclament, c'est en gros celle qui a le moins bon bilan qui a la priorité. Donc aujourd'hui, je dis une bêtise, si Bruce Irvine est coupé par les Raiders et que les Giants et les Patriots mettent le réclame sur le waiver, c'est les Giants qui le récupéreront avec son contrat actuel. Bradford est un joueur de poker, il te fait croire qu'il a un carré alors qu'il a une paire de 3. C'est Tars Belder qui nous dit ça, je suis en PLS car je suis la NFL avec Bean et il n'y a pas la semaine 9. Il n'y a pas du tout la semaine 9. Waouh, bizarre ça. MJ ou LeBron, bon on n'est pas là pour ça Clément, MJ ou LeBron c'est une question difficile. Alors attendez, je vais revenir un petit peu. Ed Oliver versus Nick Bossa, dit Flo07. On va commencer doucement les papiers NFL, les papiers NCA, mais je ne suis pas l'expert et je ne veux pas dire de bêtises là-dessus. Moi, je commence à étudier la NCA après la saison NFL pour préparer la draft, etc., pour pouvoir présenter décemment avec mes collègues. Mais je ne vais pas mentir, je ne suis pas au point encore. C'est plutôt Grégory qui gère ça et Kevin Zarmaten et voilà. Tous les jours, ils auraient dû accepter Bridgewater. Hop, hop, hop. Ah bah si, Bean 4 à 19h apparemment. Ça commence à 19h. Le Game Pass est en promo, c'est le moment. Et oui, on a mis un article. Hein. Il est en promo chez Molotov. C'est ses partenaires Molotov du site. Hein. Donc n'hésitez pas à aller prendre votre Game Pass chez Molotov. Il est en baisse de prix, là, 89,99, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est fin de saison et intersaison. Et en plus, Molotov, c'est vraiment bien, je vous jure. C'est vrai, j'utilise l'appli. Et donc, vous avez juste à balancer ça sur le Chromecast. Et comme ça, vous avez même plus à avoir de box, enfin de décodeur télé. Vous balancez les chaînes, même TNT, etc. Vous les balancez avec Molotov. C'est gratuit pour les chaînes télé et les replays. Et vous avez juste le Game Pass qui est payant. Et du coup, vous avez tout. Et vous balancez ça sur votre Chromecast. Et c'est vraiment pas mal. Goff est-il le QB de moins de 30 ans le plus sous-coté, anti-star Bezdash? Je ne sais pas s'il est sous-coté en ce moment. On a dit qu'il était génial dans la dernière émission. Donc, c'est dur quand même. Mais en même temps, il fallait qu'il fasse ses preuves. Il fallait qu'il fasse ses preuves. Donc voilà, l'an dernier, il fait une très mauvaise saison rookie, il fait une bonne saison l'an dernier, On attendait qu'il fasse ses preuves cette année, il est en train de le faire. Donc voilà. Question de Richlo, pardon. J'ai vu que tu l'avais mis plusieurs fois. Y a-t-il d'autres ligues mineures aux USA pour ceux qui ne jouent pas en NFL? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est assez compliqué. Il n'y a pas vraiment de. Alors, quand on veut taquiner Grégory Richard, qui est notre expérimenté, on lui dit souvent que la ligue mineure de la NFL, c'est la NCAA, justement, puisque c'est pas cher en plus, ça coûte rien à la NFL, les joueurs sont pas payés. Et c'est la ligue de développement. Plus concrètement, il y a très peu de ligues professionnelles, vraiment. Alors, j'ai pas une connaissance parfaite du panorama US, il y a peut-être des petites ligues mineures, il y a des ligues. À une époque, je crois que l'Arena Football League existe toujours. Mais limite, enfin, je pense que la ligue canadienne, par exemple, la CFL est plus importante et intéressante et qualitative que toutes les ligues mineures aux États-Unis, par exemple. Donc, vaut mieux aller du côté du, voilà, vaut mieux aller du côté du Canada, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligue de développement en NFL actuellement. Alors, la CFL, ouais, c'est ce qu'on disait. Il est 18h24. On va avancer un petit peu parce qu'on va passer au thème de la semaine. Je sais que ça va vous faire plaisir. On va parler draft justement. Je suis en train de... Comme moi, as-tu des doutes sur Goff? Demande Amir Dira. Moi, c'est ce que je disais, hein. Faut qu'il confirme, mais là, il est en train de confirmer. Donc, j'en ai de moins en moins, en tout cas. J'en ai de moins en moins. Il y avait une NFL Europe à l'époque, dit Arsvelder. Oui, il y a eu une NFL Europe par laquelle sont passés quand même Jack Delhom et Kurt Warner. Kurt Warner qui est un double MVP, un joueur incroyable, magnifique, génial, qui a mené les Rams au titre, évidemment. Merci à Réacote qui dit « Je me suis inscrit sur Unibet rien que pour aider le site. » Toutes mes excuses à Unibet, je dois les citer en début d'émission quand même. C'est notre partenaire, évidemment, encore sur le fauteuil pendant toute cette année. Oudatman, ça marche bien Molotov, les principales différences. Vraiment, je vous jure que l'appli marche bien et c'est véridique, je vous dis pas des bêtises. Moi, j'utilise j'utilise l'appli quand je suis pas au bureau, donc pour mettre ça sur la télé. Mais quand je suis au bureau et la plupart du temps après, je vous fais les coulisses. Après le fauteuil, je grignote un morceau, vraiment le fromage que je vous présente en général, je bouffe un peu. Et donc je mange un peu et après je vais dans mon bureau et je bosse du bureau. Et donc en fait sur Molotov, ils ont une appli, bon bah c'est un peu grillé, je suis sur Mac, il y a une appli à installer Mac et elle marche vachement bien. Et donc je la mets en plein écran et je regarde là-dessus et je vous promets que ça marche vraiment bien. Et ça permet de regarder d'autres chaînes de télé, etc., sans avoir à aller sur les différents trucs de chaînes en ligne, etc. Vous avez tout sur la même appli. Donc, je vous le conseille, c'est vraiment pas mal. Et quitte à y aller, évidemment, n'hésitez pas à rechercher l'article sur le site et à cliquer sur les liens qui sont dedans, comme ça, ils savent que vous venez de chez nous. Je vais faire quelques questions. Il est 26. Je fais des questions jusqu'à 30. Allez, et puis après, on passe au thème de la semaine sur la draft. Vinatieri aussi est passé en NFL Europe Amsterdam je crois, dit Swiss Chargers. Ah bah là tu vois je m'en rappelais plus, alors là bien vu. Guillaume Moget, comment détermine-t-on les salaires des joueurs draftés? Il y a une grille qui a été établie en négociation avec le syndicat des joueurs au moment de la négociation de l'accord collectif, voilà je cherchais. Et maintenant ils sont réévalués plus ou moins chaque année, je sais pas exactement quel cours on suit, mais bah, on suit le salary cap hein, je suppose. Mais voilà, il y a une grille, ça c'est sûr. Qui d'autre tu vois se faire couper, dit Damien? Là honnêtement, je vois pas trop, c'est des surprises maintenant. Biala, Damien, que devient Colin Kaepernick, où en est-il? Je pense qu'il faut qu'on fasse tous notre deuil de Colin Kaepernick en NFL. Hein. Malheureusement, c'est fini, je pense qu'il avait largement sa place sur un banc cette année, à minima. Quand on a vu certains titulaires jouer, je pense qu'il avait sa place un peu plus haut. Mais clairement, clairement, je pense que c'est fini. Y a la Mutant Football League, dit Benoît. Alors, c'est un jeu vidéo, j'avoue que j'ai pas vu le principe total, mais je sais que Mehdi vous a fait un live hier où il jouait à Mutant Football League à la place de Madden. Apparemment, c'était plutôt sympa. Chiefs, Browns, tu vois un gros score pour les Chiefs, Ascrid. Alors, on va en reparler, mais ça semble être un des matchs les moins équilibrés. Après, il ne faut jamais sous-estimer une équipe qui a changé de coach en cours de semaine, on ne sait jamais. Kurt Warner, c'était à Berlin, dit Antistar. Bah voilà, je me rappelais même plus. Où sera Earl Thomas l'année prochaine? Question de Billy Hope. Bon, bah, ils se sont dragués avec les Cowboys pendant un an, maintenant qu'il est libre. Peut-être que. Après, il est libre, donc faudra voir s'il cherche l'argent, parce qu'il voulait quand même un gros contrat depuis un moment. Ou alors s'il cherche un challenge, et là, ça change aussi tout. Donc voilà. Amir Diarra, pourquoi Stephen Smith déteste-t-il autant les Cowboys? Parce que c'est un guignol. Stephen A. Smith, je vous jure, c'est quand même pas. Enfin, Stephen A. Smith, c'est genre de la polémique pour faire de la polémique. Je pense qu'il pense même pas une partie de ce qu'il pense. Ce qu'il dit, c'est comme Skip Bayless, quoi. C'est des guignols, ils sont là pour... J'accorderai jamais aucun crédit à Stephen A. Smith ou Skip Bayless. Je suis désolé, je peux pas... C'est pas du tout possible pour moi. Fabrice, Harbaugh vient en cours de saison, tu y crois? En cours de saison, ça me paraît dur quand même. Surtout à Baltimore, où il y a quand même plutôt une stabilité, où il se passe... Ouais, non, ça me paraît compliqué quand même. Après, qu'ils soient en danger, je peux le comprendre avec un nouveau GM qui est arrivé. Je pense que le mec doit vouloir mettre son gars en place, imprimer sa patte. Peut y avoir une fin de cycle au bout de 10 ans. Ça fait quand même 10 ans qu'il est là. Mais c'est j'y crois plus à la fin de la saison. Les Cowboys, tu les sens en playoff? Question de Vincent. Ça va être dur quand même. Ça va être dur dans cette NFC. Blake Bortles a-t-il le niveau pour jouer en caisse de diamant, dit Romain? Voilà, quand même, a priori. Bonito, Davante Adams, est-il le receveur le plus sous-coté? C'est un de ceux dont on parle le moins, et probablement à tort, en effet. Y a-t-il des joueurs que tu ne connais pas au niveau du visage et que tu ne connais qu'avec son casque? Ah oui, Jean Bleu, c'est honnête. Alors, honnêtement, je ne vais pas vous faire le numéro de « je les connais tous par cœur », etc. Il y a 53 joueurs par effectif, il y a 32 équipes. Même en suivant au quotidien, il y a quand même des mecs qui nous échappent. Je ne vais pas vous dire que j'avais une parfaite connaissance de Nick Mullens avant la semaine dernière. Donc voilà, je... clairement, et alors pour vous dire, pour faire un petit retour d'expérience, quand on va dans les vestiaires à Londres, c'est très déstabilisant. Moi, je me rappelle la toute première fois.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je l'ai fait. Bah, ils ont plus le maillot, ils ont plus le casque. Alors des fois, ils ont plus rien du tout, d'ailleurs, c'est un peu plus gênant. Mais donc, ils ont plus le maillot, ils ont plus le casque. Et c'est vrai que c'est déstabilisant parce que ça allait très très vite. Et donc, bah, vous vous retrouvez dans le vestiaire. Il y a, en l'occurrence, à Wembley, c'est pas des très grands vestiaires comme aux États-Unis où il y a toute l'équipe. En plus, comme c'est pas des vestiaires prévus pour le football américain, donc c'est deux petits vestiaires avec un petit couloir qui les relie. Donc, en général, ils mettent l'attaque dans l'un, la défense dans l'autre. Et je vous jure que bah, vous rentrez là-dedans, il y a des gens qui bougent de partout, il y a ça remballe, il y a des trucs qui traînent, etc. Et là, vous voyez tous les mecs sans maillot, sans quoi. Bah, des fois, le lineman ou le troisième cornerback ou même, ça va tellement, c'est très très dur. Moi, j'étais paniqué, je me disais, mais merde, c'est qui tous ces mecs qui je dois interviewer, qui attendez, lui c'est qui. Donc non, ouais, c'est très très dur de connaître tout le monde, honnêtement, c'est pas évident. Que manque-t-il aux Chargers pour être de vrais contenders pour le titre? De la régularité. Parce qu'ils ont quand même pas mal d'armes. Un retour de Joey Bosa, ça ferait du bien. Mais il en manque pas tant que ça. Sur un gros run en fin de saison, s'ils prennent un peu chaud, je pense pas qu'il leur manque tant que ça. Si Melvin Gordon est là, là encore, régularité. Et si Joey Bosa revient pour aider le pass rush, ça peut être pas mal. Vincent Van Der Hout, c'est vrai que le quarterback remplaçant des Giants, c'est un mec qui faisait des trickshots sur YouTube. Oui, Alex Tanet, trickshot quarterback. Il était connu pour ça. Un kicker, dit Swiss Chargers, c'est vrai, il manque ça aussi. Aria Cotes, Des Bryant, tu le vois revenir un jour? Alors ça, c'est un mystère, je sais pas. Je commence à croire que non. Rivers, c'est pas du top QB. Bien sûr que si, Benjamin. Bien sûr que si, c'est du top, mais c'est du pire que top QB, Philippe Rivers. Il y a eu un article, je crois, il y a quelques temps sur le site, qui disait à quel point il était sous-coté. C'est un des meilleurs quarterbacks de la Ligue depuis très longtemps. Il est là depuis 2004, ça fait 14 ans qu'il fait ça. Donc non, c'est un excellent quarterback. Guillaume Mauger, le Von Bell rejouera-t-il? Pareil, mystère. Toutes les semaines, on nous annonce qu'il reviendra. Je commence sérieusement à douter et je commence à... Et après tout, le mec, il a gagné, je sais pas, 20-30 millions de dollars dans sa vie. Peut-être qu'il s'est dit, je suis en vacances maintenant. Un punter a-t-il déjà été kicker en cours de match? Tarz Welder, oui. De mémoire, j'ai pas le nom, mais de mémoire, c'est arrivé. Il y a déjà un kicker qui s'est claqué ou un truc comme ça. Et à l'inverse, je me demande si j'ai pas déjà vu un kicker qui faisait les punts. Parce que le punter s'était claqué aussi. Mais oui, ça peut un peu. Tu te dis impartial en termes de supporting, mais tu es grave fan des Rams. Si tu es impartial dans tes articles, quand tu les traites bien, j'ai en bleu. Oui, parce que honnêtement, moi, bon, grave fan, je pense que c'est un bien grand mot. Non, j'ai pas la fibre supporter, mais je l'ai déjà raconté plein de fois. Si ça me fait un bon titre pour le site et qu'une équipe que j'aime bien perd, ça me va aussi. Je suis là pour l'histoire, je suis là pour le site. Janikowski a fait un punt, dit Sylvain. Ouais, voilà. Brady alors il a pas kické, il a punté. Question d'ailleurs à côte. Brady a punté une fois. C'était tellement irrespectueux à première vue. Et qui a kické, c'est Wes Welker qui a déjà kické en match et Chad Ochocinco aussi. Ouais, ok. Donc les drafts. Un petit mot quand même, j'ai pas la fibre jaune mais j'ai la fibre orange, c'est ça. C'est passé 18h30, dit Rosetti. Tu as bien raison Rosetti de me rappeler à l'ordre. Donc les drafts de ces 10 dernières années, j'ai essayé de les classer, alors j'ai préparé un petit peu ça. Et je vais vous dire, c'est pas facile parce qu'il faut juger soit sur la qualité de quelques éléments très très forts qui tirent toute la draft vers le haut ou sur une qualité globale. Je vais vous dire, c'est le que j'ai mis en 1 sur les 10 dernières années, c'est la draft 2010. Alors, elle paye pas de mine comme ça parce que le numéro 1, c'est Sam Bradford. Le Arsène Lupin évoqué tout à l'heure. Mais derrière Sam Bradford, il y avait Ndamu Kongsu en 2, Gerald McCoy en 3, qui sont quand même des défensifs tackles qui sont là depuis un moment. Trent Williams en 4, qui est left tackle, qui est toujours là. Eric Berry en 5, qui a été un joueur exceptionnel, on espère qu'il va revenir au niveau de sa blessure. Joe Hayden, qui est toujours là, Earl Thomas, Jason Pierre-Paul, Mike Iupati, Marquis Pouncey, Demarius Thomas, Des Bryant, David McCourty, Rob Gronkowski, Sean Lee, Golden Tate, Navarro Bowman, qui est plus là, mais qui était un joueur exceptionnel sur une petite période, Jimmy Graham, Gino Atkins, Cam Chancellor, Rashad Jones, Greg Hardy, qui a eu ses torts, mais qui a été un bon joueur à un moment, et Antonio Brown, qui était le 195e choix de cette draft. Les gros busts, c'est Rolando McClain, 8e, Tyson Alualu, 10e, Tim Thibault, 25e, et Victor Cruz a fait des belles saisons en étant non drafté cette année-là. Donc, sur la quantité, 2010, c'est quand même très très fort. C'est quand même très très fort. Donc, je vais dire 2010. Après, on a 2016, qui pour moi est déjà une draft réussie. Alors, c'est dur, j'ai pas mis 2018, je précise, c'est trop tôt, on peut pas juger les mecs après 8 matchs. 2016, Goff, Vance, Joey Bosa, Ezekiel Elliott, Jalen Ramsey, c'est le top 5. Ils sont déjà... Je sais pas si Goff a été pro bowler l'an dernier avec toutes les annulations, etc. Mais Goff, Vance, Bosa, Elliott, Ramsey, c'est tous pro bowlers, quoi. Donc, a priori, c'est quand même du très très lourd. Derrière, il y a des mecs comme Michael Thomas, Yannick Ngakoue, Jacoby Brissett, qui a été un backup honorable, Josh Auburn, des Browns, qui plaque beaucoup, Pharoah Cooper, Dak Prescott est dans cette draft-là, Jordan Howard et Tyreek Hill sont dans cette draft-là. Donc 2016, c'est quand même déjà très très fort. C'est déjà très très fort. Vous allez voir que les dernières années ont été plutôt gâtées. Donc je rappelle, je vois quelqu'un citer 2004. 2004, c'est évidemment très très fort, mais là j'ai mis que les 10 dernières années. Hein, donc on va vraiment juste sur les 10 dernières années, parce que 2004, il y en a déjà une bonne partie qui sont plus là. 2011, j'ai mis en 3ème. Donc 2010, 2016, 2011. 2011, Cam Newton en 1. MVP depuis hein, quand même. Von Miller en 2. Marcel Dareus qui a eu ses moments en 3. Edgy Green en 4, Patrick Peterson en 5, Julio Jones en 6, Aldon Smith, qui est plus là, mais qui a eu une belle 2 ans, en 7, J.J. Watt en 11, Robert Quinn en 14, Mike Poncer, Ryan Kerrigan, Mohamed Wilkerson, Cameron Hayward, Andy Dalton, Randall Cobb, Justin Houston, Jurrell Cazette, Julius Thomas, Richard Sherman, 154e choix de cette draft, Chris Harris Jr., le cornerback des Broncos, et non drafté cette année-là. Donc c'est quand même une sacrée draft. Non, c'est pas la draft d'OBJ, Damien, on arrive. On y arrive à OBJ. Donc 2011, elle est très très forte. Il y a quelques gros busts au premier tour, mais alors... 8e choix, Jack Locker, quarterback. 10e choix, Blaine Gabbert, quarterback. 12e choix, Christian Ponder, quarterback. Oh, yo. Bon, alors clairement, c'était pas la draft des quarterbacks. Hein, à part Cam Newton en 1. Qui n'était pas une valeur sûre quand il a été drafté. D'ailleurs, je me souviens que c'était... Bon. Mais donc voilà, on a un MVP en tête, on a Von Miller qui est allé chercher un titre face à Cam Newton en plus au Super Bowl. Donc on voit l'impact de cette draft, ces deux mecs-là étaient quand même opposés au Super Bowl. Derrière, il y a beaucoup de qualités, il y a un JJ Watt, il y a Julius Thomas, il y a Richard Sherman, enfin voilà, il y a vraiment vraiment des choses. Ariane qui dit, Alain, tu t'étais moqué de moi en week 4 quand j'avais annoncé les Texans en playoff, tu me dois un mea culpa. Alors, j'ai aucun problème à faire des mea culpa, je suis pas attaché, j'ai pas d'ego là-dessus, on se trompe tous quand on fait des pronos sur le sport. Même si, je te demanderai un petit peu de temps, on est qu'en semaine 9, hein. Ils sont pas encore en playoff. Donc, on continue notre... Mais promis, je ferai un mea culpa, Ariane, s'ils y sont. Tu me le rappelles, je le ferai le soir du fauteuil où il se qualifie. Donc 2010, 2016, 2011. Ensuite, 2017. C'est récent, mais Myles Garrett, qui est déjà quand même un super pass rusher. Patrick Mahomes, Deshaun Watson, O.J. Howard, Evan Engram, T.J. Watt, qui est déjà un des meilleurs sackers de la ligue. Buda Baker, un très bon safety. Joe Mixon, un excellent coureur. Alvin Kamara, un excellent coureur. Kareem Hunt, un excellent coureur. Kenny Golladay, un bon receveur. D.D. Westbrook, Carl Lawson, qui file un coup de main du côté de Cincinnati. C'est quand même pas mal aussi. C'est quand même pas mal aussi. Encore une fois, c'est peut-être un peu prématuré. Peut-être que je m'emballe un peu. Mais c'est vraiment c'est très prometteur. 2016 et 2017. Ça a été deux très belles couvées. Il y a la Timor aussi, Thomas, tu as bien raison de me le rappeler. Donc 2016-2017, c'est du très bon. Donc on récapitule 2010, 2016, 2011, 2017 et 2012. 2012, Andrew Luck, Robert Griffin. Alors Robert Griffin, rookie de l'année, mais qui n'a pas vraiment survécu à la hype. Mais Andrew Luck, qu'on voit revenu à un excellent niveau. Luke Kuechly, Chandler Jones, David DeCastro, Harrison Smith, très très lourd, Alshon Jeffrey, Bobby Wagner, Lavonte David, Russell Wilson, 75e choix de cette draft, Josh Norman est le 143e choix de cette draft. C'est une super draft aussi du côté de 2012, donc là on est pas mal. Un petit tour sur les busts pour rigoler. Trent Richardson, 3e choix, Justin Blackmon, 5e choix, Maurice Claiborne, 6e, Quinton Coppel, 16e, Shea McClellan, 19e, et Brandon Whedon, l'inoubliable Brandon Whedon, 22e. Donc il y avait deux busts pour les Browns à cette époque-là, évidemment. Mais 2012, quand même encore du très bon. On commence, là, je trouve, à descendre d'un rang. Alors, là, il y a quelques très grosses stars, même d'énormes stars, je pense, qui pouvaient permettre, et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une question de jugement. Là, il y a des énormes stars, mais il y a moins de profondeur. C'est 2014. Jadeveon Clowney en 1. Et derrière, alors là, attention, Khalil Mack, Mike Evans, Odell Beckham, Aaron Donald. Là, avec Clowney, Mack et Aaron Donald, c'était une draft plutôt défensive sur les qualités. Odell Beckham, c'est énorme. Derrière, Derek Carr, Davante Adams, Jarvis Landry. C'est des bons choix, mais... C'est pas encore du top, 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 mais sur 2014, il y a quand même des très bons joueurs défensifs. C'est des superstars, quoi. Khalil Mack, Odell Beckham, Aaron Donald, c'est des superstars. Donc, elle aurait pu être plus haut, je trouve, si elle avait eu un peu plus de substance. Parce qu'au-dessus, il y a quand même Andrew Luck, Russell Wilson, Luke Kuechly, Harrison Smith, Lavonte David, Bobby Wagner. Ça fait un peu plus de monde. Donc, 2014, voilà, il y a de la superstar. Et pour les busts, des Browns, Justin Gilbert, Johnny Manziel. Derrière, on a 2008, premier choix, Jack Long Dolphins. Alors, ça avait été très solide. Jack Long, il a fait une très belle carrière. Derrière, il y a Chris Long, qui est toujours là. Matt Ryan, Dominique Rogers-Cromartie, Hakeem Talib, Chris Johnson, qui avait quand même couru 2 milliards sur une saison. Jordy Nelson, Matt Forte, Deshaun Jackson, Calais Campbell, Ray Rice, Jamal Charles. Donc voilà, il y avait aussi de la bonne qualité. J'ai envie de dire, il y avait de la bonne qualité. C'est pas la super, 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 super star, même si Chris Johnson l'a été quand même quelques temps. Mais c'était plutôt une bonne draft. Et du côté des busts sur 2008, on a quand même Glenn Dorsey, Vernon Goldstone, Derek Harvey, Chris Williams, tout ça, c'est top 15. Hein. Jeff Ota, 19e, Felix Jones, 22e, quelques moments. Mike Tolbert a été non drafté cette année-là, voilà, en 2008. On me demande de quel draft est Eric Fisher. Ne bouge pas, il est un peu plus bas. Il est même beaucoup plus bas. 2009, Matt Stafford, justement, on en parlait tout à l'heure, était le numéro 1. Et derrière, les joueurs notables, c'est B.J. Raji, Brian Orakpo, Malcolm Jenkins, Brian Cushing, Jeremy McLean, Alex Mack, Vontae Davis, Clay Matthews, LeSean McCoy, Glover Quinn. Bon, Clay Matthews, ça a été bon à un moment. LeSean McCoy, c'est très bon sur la durée, mais là, il en manque. Là, il y a vraiment. À part Matt Stafford qui a fait une longue carrière, mais on a du mal à Malcolm Jenkins, c'est toujours là, mais on a du mal à voir un peu qui a vraiment pesé. Et quand on sait que le deuxième choix était Jason Smith, bust. Tyson Jackson en 3, bust. Aaron Curry en 4, bust. Mark Sanchez en 5. On sait tout ce qui s'est passé. Darius Eward B en 7, bust. Aaron Mabin en 11, Notion Moreno en 12, Larry English en 16, Josh Freeman 17, Perry Adjeri 24. Oh, j'aurais pu la mettre en dernier. 2015, j'ai mis plus bas, je suis vraiment dur, j'aurais pu les mettre au-dessus quand même de ce que je viens de citer. Winston, Mariota, Fowler, Amari Cooper, c'est le top 4. Winston et Mariota, ça n'a pas prouvé que c'est franchise player. Dante Fowler vient d'être échangé, Amari Cooper vient d'être échangé. Pour moi, c'est Todd Gurley le premier tour. Et derrière, il y a quelques bons joueurs, London Collins, David Johnson, Jay Ajayi, mais Johnson et Ajayi, ils n'ont pas vraiment confirmé. London Collins, il est toujours là, il est bon, mais ça manque vraiment, vraiment beaucoup de qualité sur 2015. Et on termine avec 2013. La draft de 2013, Eric Fisher numéro 1, les choix notables, Sheldon Richardson, DeAndre Hopkins. Alors DeAndre Hopkins sauve le lot. Hein. Derrière, on a Kawhi Short, Jamie Collins, Eddie Lacy, Tyrann Mathieu et les busts. Eric Fisher numéro 1, Luke Jokel numéro 2, Dion Jordan numéro 3, Jimmy Liner numéro 9, DJ Hayden numéro 12, Edge Emmanuel numéro 16, Bjorn Werner 24. Voilà, là c'est... Ouf, les trois premiers choix sont des busts. Voilà. Eric Fisher, Luke Jokel, Dion Jordan. Voilà, c'était un carnage. C'était un vrai carnage. Voilà donc pour les 10 drafts, les 10 dernières drafts classées, vous aviez réclamé. On est à l'écoute, hein, c'était... je suis désolé d'ailleurs, j'ai pas pris la référence de qui a suggéré ça sur Twitter, mais je le remercie infiniment, il y a quelqu'un qui avait suggéré ce thème sur Twitter, et j'essaierai de vous rendre ça. Ouais, il y a Keenan Allen en 2013 quand même. Ouais, mais bon, il sauve pas tout ça, il peut pas sauver Fisher, Jokel et Jordan. C'est pas possible. Donc n'hésitez pas, mais je vois 2010 la meilleure. C'est quand même pas mal, hein. Sur la quantité 2010, c'est quand même pas mal. 2016, il y a du franchise player, je pense que Goff, Vance Bossa, Elliott, Ramsey, c'est là pour un moment. 2011, Newton, Von Miller, c'est quand même des belles têtes de proue. Derrière, Miles Garrett, Patrick Mahomes, 2017, on va s'en souvenir longtemps. 2012, Andrew Luck, évidemment, en tête de gondole avec Russell Wilson. Je vous fais un peu le résumé. 2014, Jademon Clooney, Khalil Mack, Mike Evans, Odell Beckham, Aaron Donald. 2008, ça commence à être plus dur. Je cherche la vedette. Matt Forte, Jamal Charles. Et Matt Ryan, évidemment. Matt Ryan, je suis dur. 2009, Matthew Stafford et pas grand-chose d'autre. 2015, la draft Mariota Winston qui est quand même en difficulté. Et puis la draft des gros busts en 2013 avec Fisher, Jokel et Dion Jordan. Fabrice qui dit du coup un tournoi de QV de draft, pourquoi pas. Pendant l'intersaison, on va peut-être essayer de faire ça. Pour préparer la draft, peut-être. On va peut-être essayer de faire ça. Avant de passer aux affiches de la semaine, un petit mot sur le tournoi en cours. Vous pouvez aller sur le site All Star Team. Le grand tournoi, le premier tour est toujours en cours avec l'AFC West. Actuellement, vous avez un Broncos Chargers qui est en cours avec un petit 84% pour les Broncos actuellement. Forcément, il y a John Elway d'un côté et des Chargers qui ont du mal en couverture aérienne, même sur leur équipe all-time. Il y a la Denian Tomlinson, mais si vous supportez les Chargers, c'est le moment d'aller voter. Les votes sont clos demain. Et le Chiefs Raiders, c'est largement à l'avantage des Raiders, 75%. Ils ont John Madden en coach, Jack Tatum et Ken Stabler, notamment sur le terrain, Marcus Allen à la course. Donc il y a du très très lourd, mais vous pouvez aller voter pour tout ça. Arthur qui nous demande est-ce que Le'Veon Bell joue ce soir. La réponse est non, on ne sait toujours pas où est Le'Veon Bell. Les affiches de ce soir, on va en dire un petit mot, il nous reste 14 minutes avant le coup d'envoi. Patriots, Packers, on en a fait notre affiche de la semaine sur le site. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle est sur notre chaîne YouTube aussi, un quart d'heure à décortiquer tout ça par Grégory Richard et Raoul Villeroy. Bon, moi je vais vous dire très simple, hein, duel de quarterback. Évidemment, sur le papier, entre Aaron Rodgers et Tom Brady, mais attention surtout au jeu au sol et attention surtout à la défense. Celui qui va gagner va être celui qui va être accompagné. Ils ne peuvent pas gagner tout seuls, ces deux gars-là. Donc, clairement, surveiller surtout le jeu au sol. Il va falloir que Sonny Mitchell joue, il faudrait que Roman Gronkowski joue, il faudrait qu'une des deux défenses élève son niveau. Donc, ça va être ça, les clés, plus que les deux quarterbacks, même si évidemment, c'est un beau duel entre ces deux joueurs-là. Quelqu'un l'a dit, c'est. Des Chargers, New Orleans, Rams, la vraie affiche. Alors oui, déjà, petite explication de texte, parce que je fais un peu le service après-vente du site sur le fauteuil, mais c'est un peu normal, et n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions, d'ailleurs, quand vous avez des questions sur pourquoi on a publié tel truc, ou pourquoi on a fait tel choix, on y répond avec plaisir. Donc pourquoi on a fait de Patriots-Packers notre affiche toute la semaine? Parce qu'il y avait le gros duel des quarterbacks, évidemment. Que c'était important. Et après, on l'a pas fait dans l'émission. Enfin, on n'a pas fait le Saints Rams dans l'émission parce qu'on avait déjà fait une affiche de la semaine avec les Rams la semaine d'avant, si je dis pas de bêtises, mais enfin on a fait beaucoup les Rams et les Saints, donc on essaye aussi de varier un minimum les équipes, ce qui n'est pas toujours facile, parce que évidemment les grosses affiches, bah, c'est surtout là avec la saison avance, bah, y a des équipes qui se détachent. Mais voilà, on est en tout cas en train, on a mis celui-là pour ça, en tout cas. Mais c'est vrai que l'affiche Rams Saints est énorme. Alors, les deux meilleures attaques de la ligue, à plus de 33 points par match. Lucas a donné une défaite des Rams dans la preview sur le site, j'ai vu ça. Je ne sais pas si les Saints ont la défense pour le faire, mais on ne pensait pas que les Packers avaient la défense pour le faire, et ils sont passés pas loin. Les Saints ont quand même la meilleure défense au sol de la Ligue statistiquement, si je ne dis pas de bêtises, ou alors c'était la semaine dernière, mais ils sont dans les meilleures défenses de la Ligue statistiquement. Donc pourquoi pas, d'autant que la défense des Rams a des soucis, Marcus Peters a autorisé 5 touchdowns, et ils ont autorisé au moins 3 actions aériennes de plus de 25 yards dans 6 de leurs 8 matchs. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais il y a 6 de leurs 8 matchs où l'équipe d'en face a réussi au moins 3 actions de 25 yards à la passe. Donc il y a quand même des problèmes encore dans cette défense des Rams. Il va falloir, je lisais un bon article, c'était mqb.com, qui disait qu'ils avaient une défense très agressive, alors que la tendance, notamment Patriots Chiefs par exemple, était d'avoir des défenses qui plient mais qui rompent pas. Donc est-ce que c'est bon d'être si agressif que ça? Marcus Peters, c'est un peu le symbole. Ils vont avoir encore plus de pass rush en théorie que Dante Fowler, mais il faut avoir vraiment beaucoup de pass rush pour assumer ce genre de risque là. Donc c'est quand même compliqué. Mais ça va être un très gros match, c'est à 22h. Donc on a couvert 2h du matin avec le Patriots Packers, on a couvert 22h avec le Rams contre Saints, et il y a Guillaume qui nous dit « Alain, en AFC Nord, c'est pas une affiche ». C'est exactement une affiche, c'est l'affiche de 19h entre les Steelers et les Ravens. Donc il y a une intrigue supplémentaire, c'est que maintenant apparemment c'est un peu chaud pour John Harbaugh, c'est ce que disent les médias US, je crois que c'était NFL Network tout à l'heure. Donc c'est un peu chaud. Ça en fait une affiche, évidemment, et c'est toujours un vrai bonheur de voir cette opposition à AFC Nord entre des Ravens qui sont quand même très costauds en défense cette année, encore une fois, et des Steelers qui sont complets. Donc ça va être la très très belle affiche de 19h. Je vous rappelle quand même toutes les affiches de la soirée. Baltimore-Pittsburgh, donc, alors je vous rappelle mes pronos au passage, mais alors, si je m'en souviens bien, sans faire d'erreur. Baltimore-Pittsburgh, donc moi j'avais mis Pittsburgh, mais ça va être serré, belle rivalité de division. Buffalo-Chicago, c'est compliqué, Nathan Peterman face à la défense des Bears. Je ne sais pas si Ken Mack pourrait être encore au repos, hein. J'ai pas la dernière info, je pense qu'au moment où je vous parle... voilà, Ken Mack est out, je l'ai sous les yeux en plus. Donc Ken Mack est forfait. Mais même avec ça, ça va être compliqué pour Nathan Peterman face à Chicago. Donc on va dire Chicago. Caroline n'attend pas, les Buccaneers sont évidemment plus complets, Ryan Fitzpatrick titulaire, on va dire Panthers quand même. Cleveland, Casey, Kansas City, normalement ça doit dérouler pour Kansas City. On fait attention quand même à une équipe qui vient de changer de coach. Miami, New York, Jets, j'ai mis Miami. On nous a beaucoup fait remarquer que personne n'avait choisi les Jets. C'est pas impossible, hein, surtout vu la physionomie de la saison des Dolphins. Mais bon, pour les pronoms, on joue la sécurité, donc on s'est tous retrouvés là-dessus, a priori. Minnesota-Détroit, ça va être un beau match, ça. Il faut quand même que les Vikings finissent par enchaîner. Donc attention à ça, et les Lions sont tellement irréguliers que sur une soirée, ils peuvent les embêter. Donc moi, je dis Minnesota, mais attention. Washington-Atlanta, très beau match, parce qu'il va y avoir attaque explosive d'Atlanta, mais face à une équipe de Washington qui est très très costaud dans les tranchées maintenant, il va falloir vraiment se bouger du côté d'Atlanta, notamment en défense, parce que Adrian Peterson rentre dans le tas, je vais pas le redire ce que j'ai dit dans l'émission, je vous laisserai écouter, mais j'aime bien cette équipe de Washington qui est costaud cette année. Donc je vais mettre une petite piécette sur Washington. Denver-Houston, là on passe à 22h. C'est un match, j'allais dire dans la même division, mais ce n'est pas la même division, j'allais dire une grosse bêtise. Deux équipes à la trajectoire opposée. Houston a mieux protégé, mieux couru ces derniers temps. Donc je dis Houston pour ça, et ce serait c'est vraiment un bel élan du côté de Houston. Seattle Chargers, c'est un beau match aussi à 22h05. Celui-là, si vous pouvez le voir, ou que vous ne voulez pas voir le Rams Saints, celui-là à 22h, il est bien. Deux équipes sur une bonne dynamique. Les Seahawks ont retrouvé leur jeu au sol. Donc ça aussi, ça va avoir le détour. Très bon test. Je ne sais plus qui j'ai mis. J'ai mis les Chargers. J'ai mis les Chargers, mais vraiment match incertain. Saints-Rams, on en a parlé, très beau match. Je vais dire les Rams, parce qu'ils sont invaincus, mais attention. Et puis, le Patriots-Packers, j'ai mis les Patriots. Ouais, j'ai mis les Patriots. Mais très beau match aussi. Et puis, dans la nuit de lundi à mardi, ce sera Dallas Tennessee. A priori, Dallas est quand même plus complet là-dessus. Il est 18h52, c'est l'heure des meilleures cotes de la semaine. C'est avec notre partenaire Unibet et on va dire ça tout de suite. Et 3 sur 3 la semaine dernière encore. Donc, je vous conseille quand même de rester jusqu'au bout parce que j'étais plutôt chaud la semaine dernière. Donc, c'est l'heure des bons plans. Qui on va... Ah bah voilà, j'ai ma première bonne cote. Regardez, hop, tac, tac. J'ai pas besoin de la chercher très loin. Alors, j'essaie d'écrire bien, ou en tout cas mieux. Parce que c'était pas très jojo la semaine dernière. Voilà. La première, Steelers, 1,95. Très bonne cote. Les Steelers sont outsiders. A priori, chez Unibet, on doit considérer qu'ils sont outsiders parce qu'ils sont pas à domicile. Mais c'est une bonne cote. Je veux dire, 1,95 pour les Steelers, c'est pas mal. Qui on peut mettre derrière? Alors, c'est un peu risqué de jouer les Lions face à Minnesota, même s'ils ont une bonne cote. Et bah, regardez, hop, on va rajouter un petit... On va faire une... Pour l'instant, je reste dans la même division, dans la même conférence. Texans, 1,88 contre Denver. Ça peut passer, ça peut passer, ça peut passer. Et puis, alors les Packers sont descendus, ils sont à 2,60. Les Saints, c'est à 1,88. Si vous pensez que les Saints vont faire tomber les Rams. Les Chargers sont à 1,88. Il y a des bonnes cotes parce qu'il y a des matchs serrés. Il y a des très très belles affiches quand même. Il y a des très très belles affiches. J'ai le track maintenant parce que j'ai réussi un 3 sur 3 la semaine dernière. C'était mon deuxième 3 sur 3 de l'année. J'ai le track maintenant. J'ai peur de ne pas réussir à en passer un autre. Je vais dire. Ah, mais c'est à Seattle. Ah, j'aurais bien joué les Chargers à 1,88, mais c'est à Seattle. Donc c'est quand même dur. C'est quand même dur. Les Patriots. C'est... Je voudrais vous faire des cotes quand même un peu sympas. Ah, j'ai du mal pour ma troisième. Allez, j'ai donné les Redskins tout à l'heure. Mais, sur la cote, c'est quand même intéressant de jouer les Falcons, qui sont à 1,95. Donc sur la cote, c'est pas inintéressant parce qu'ils ont quand même des armes en attaque. Ils peuvent quand même faire des choses. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas jouer les Falcons? Encore une fois, ils ne sont pas favoris de ce match. Si je dois pronostiquer direct, je mets plutôt Redskins parce qu'ils sont plus costauds. Mais si les Falcons prennent l'avantage dans le match et emballent un peu le rythme, ils peuvent le gagner ce match-là. Donc honnêtement, ça se tente. Hein, 95, ça se tente. Et donc, je vais vous donner le combiné à 10 euros. 71,49 euros pour les 3 pronostics cités. Alors, Tarz Velder a quand une émission pour expliquer certains paris, genre système sur Unibet. Oui, bon, on pourra donner même plus de détails la prochaine fois, mais là, on fait des combinés. C'est vrai que la plupart du temps, c'est le plus simple. Vous pouvez faire des paris simples, vous pouvez parier sur les écarts. Il ne faut pas hésiter à cliquer sur l'affiche des matchs sur Unibet. Vous cliquez sur l'affiche et puis comme ça, vous avez les écarts, vous avez plus de choses. Vous avez les marqueurs de touchdown. Tiens, on va se faire plaisir sur le Patriots Packers. Allez, qui va marquer un touchdown sur le Patriots Packers? Moi, j'aime bien cela. Vous pouvez aussi parier qui mène à la mi-temps, qui mène à la fin. Et je rappelle, hein, il y a le cash-out maintenant sur Unibet. C'est-à-dire que si votre pari est en cours et que vous voyez que ça tourne très très mal et que vous savez que ça ne va pas gagner, vous pouvez retirer votre mise, en tout cas en récupérer une partie avant que tout soit perdu. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à voir ça. Qui marquera un touchdown sur Patriots Packers? Julian Edelman est à 2,20. C'est pas inintéressant. Devante Adams, on disait qu'il était sous-coté tout à l'heure. 2,03. Geronimo Allison à 3. Devante Adams 2,03 ou Julian Edelman à 2,20. Hein. Ça paraît être ça paraît ne pas être des mauvais paris, a priori. Cordarrelle Patterson à 4,20, si vous êtes un peu fantaisiste. Mais là, c'est plus osé. Il y a des incertitudes sur Gronkowski et Sonny Mitchell au niveau du jeu. Donc, je vais dire Edelman à 2,20 ou Adams à 2,03 sur celui-là. Alors, Valdez Scantling, quelqu'un demandait la cote. Il est à 3. Donc, ça peut voir aussi. Ah, Allison est out, dit Tarz Welder. Alors, à voir, ouais. Equanimous Sand Brown. Est-ce qu'il est... Oui, il est à 6, Equanimous Sand Brown, si vous voulez tenter le coup. Faut surtout faire les 3 codes de Alain. En code boosté, ça augmente légèrement les codes. Voilà, il y a aussi ça, hein, donc n'hésitez pas. Il y a Johnny Bleu qui dit tu peux relâcher le technicien d'Orange, ça marche maintenant. C'est bon, non, mais c'est bon. Il n'y a pas de souci, on n'a plus eu de problème. Fibre plus Ethernet. On est propre. Il y a Flo qui dit le fromage. Il arrive, il est 18h57. C'est vrai qu'on va pas tarder. Ouais, ce matin, Seahawks et Chargers, c'était à égalité. J'aurais choisi quoi? C'est vraiment dur. Hein. Le Seahawks Chargers, il est très très dur à pronostiquer. Aaron Jones peut le faire. Je dirais Chris Hogan. Juju Smith pour les Steelers. Touchdown de Moore à Seattle, 3:30. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à regarder, à fouiller, vous cliquez sur la fiche et il y a tout ce qu'il faut. Donc je vous rappelle, Steelers 195, Texans 188, Falcons 195 et le 10€ est à 71,49€ pour les mises chez notre partenaire Unibet. On va terminer avec un petit bout de fromton comme d'habitude parce que ça porte bonheur vu qu'on a eu nos pires problèmes techniques la fois où je n'avais pas de fromage. Hop là! Alors, j'ai pas pris le nom exact de la bestiole, enfin de la bestiole si, c'est une chèvre. Mais j'ai pas pris le nom exact du fromage, en tout cas c'est une tome de chèvre, voilà, pour faire simple, elle a pas de petit nom, c'est pas un osso irati ou quoi que ce soit, mais j'ai une super tome de chèvre, qui sent bon, qui sont très très bon en plus, et un pain aux figues, on a tous ces petits péchés mignons, on a tous nos petits péchés mignons, donc pain aux figues et tome de chèvre pour ce soir, donc c'est ce que je vous disais, après coup, c'est après le fauteuil, c'est petit repas, et appli Molotov pour aller regarder les matchs dans le bureau en gérant les résumés et tout ça et tout ça. Et un gros bisou évidemment à toute l'équipe de TDA qui va bosser sur les résumés ce soir. Il est 18h58. Je vous ai fait. J'ai pas dégusté parce que j'ai peur de me couper en fait en coupant tout ça devant lui. Devant vous. N'hésitez pas si vous avez 2-3 questions. Il nous reste une minute. Mais bon, il est 18h59. Je vais vous laisser là. Je vous remercie, je vous souhaite de très bons matchs. N'oubliez pas les affiches de la soirée, le Ravens Steelers à 19h, le Saints Rams à 22h et puis le Patriots Packers dans la nuit à 2h du matin. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. On remercie Unibet, notre partenaire pour les sponsors et de toutes les émissions le jeudi et le dimanche. On les remercie d'être avec nous pour une troisième année de suite. Chaque semaine, tu nous montres des super fromages dont tu oublies le nom. Ah non, c'est pas vrai. Je peux récapituler. Tu dis Flo07. Là, il avait pas de nom. C'est une tome de chèvre. Hein. Mais la semaine dernière, c'était. Oh, j'arriverai jamais à me rappeler. Je sais plus. C'est le sous-main-train. C'était un sous-main-train la semaine dernière. Et c'était très bon. C'était vraiment pas mal. J'ai fait des burgers avec pendant la semaine après. Burgers végétariens. Et c'était très très bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir suivis. On remercie évidemment tous ceux qui nous aident sur Tipeee. On donne les noms le mardi. Je fais les comptes le mardi et je donne les noms le mardi. Mais merci encore à vous qui nous aidez sur Tipeee. Très bonne soirée. Très bon match à tous. À mardi pour le débrief de tout ça dans le podcast en audio. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.